Bonsoir Frédéric Mazzella.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Blablacar. Mais ce soir, alors ça va peut-être vous faire sourire, c'est l'auteur que nous allons recevoir, puisque vous venez de faire sortir un livre, justement Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène, un livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Alors finalement, vous prenez l'exemple de votre réussite, l'exemple de Blablacar, mais c'est un livre sur la création d'entreprise. J'ai envie, en première question, de vous demander, c'est quoi, au regard de votre expérience, le plus beau des souvenirs que vous ayez eu, parce que vous en partagez beaucoup dans votre livre, dans la création d'entreprise de Blablacar. C'est quoi votre plus beau souvenir ?
Ah, c'est un moment où j'ai entendu des gens parler de Blablacar parce qu'ils venaient de l'utiliser. Et de voir des gens à la table d'à côté, j'étais en terrasse à un café, et de voir les gens de la table d'à côté faire une démonstration de l'application, à l'époque ça s'appelait pas Blablacar, ça s'appelait Komuto, mais de l'application qu'ils avaient utilisée pour venir de Bruxelles vers Paris, et dire qu'ils avaient rencontré quelqu'un de formidable qui jouait de la guitare en concert juste à côté, qu'ils allaient le voir juste après. Enfin bon, bref, c'était de voir que tout le travail qu'on avait fait était dans la vraie vie de tout le monde et utilisé au hasard d'une rencontre comme ça en terrasse de café.
Je le disais, hein, c'est quasiment un livre sur la création d'entreprise, autour de vos échecs, autour de vos succès. Si on poursuit du coup la réflexion, c'est quoi le moment le plus dur? Le moment où vous vous êtes peut-être dit « je vais devoir tout arrêter ».
C'est clairement dans les toutes premières années, surtout quand voilà, on se raccroche sur les tout premiers utilisateurs, évidemment. Après, sur l'évolution des différents parcours de vie en fait, de chacun de nous, quand on a 25, 28, 30, 32, 35 années, eh bien, on voit chacun évoluer différemment. Et puis nous, on est sur notre projet. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on est sur un projet qui, clairement, peut aboutir à rien du tout. Et on voit d'autres personnes qui construisent leur vie, peut-être de manière un petit peu plus conventionnelle et visible, avec un vrai boulot. Alors j'en parle un peu justement dans le livre puisque...
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a presque l'impression que ce qui vous est arrivé, alors je veux dire, ça a été de la chance. Non, parce qu'une fois de plus, vous avez créé Blablacar, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour répondre à votre propre besoin, puisqu'à un moment, vous vous êtes rendu compte que ça n'existait pas comme alternative au train. Mais il y a un moment, vous dites dans le livre, j'ai découvert le concept de mon modèle économique plus de 2 ans après avoir commencé à travailler. Vous vous êtes lancé, puis finalement, la bonne idée est devenue une réussite économique ?
C'est pas tellement une réussite économique qu'il faut, c'est surtout un équilibre économique. C'est-à-dire qu'il faut un modèle pour que, tout simplement, les revenus compensent les coûts. Parce qu'en fait, c'est très, très facile de dépenser. C'est beaucoup plus difficile d'équilibrer les coûts. Et donc, trouver un modèle économique, ça veut dire trouver une manière de faire fonctionner toute la machine. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. On peut avoir initialement l'idée du service. Voilà, donc comment on fait pour que... qu'est-ce qu'on propose comme service, c'est-à-dire faire simplement en sorte que les gens partagent leur voiture sur des trajets communs. Mais après, comment vous équilibrez ça au niveau modèle économique, c'est très compliqué. On en a fait 6 des modèles économiques avec beaucoup de modèles qui ne marchaient pas du tout, c'est-à-dire des modèles qui font que si vous poursuivez, vous n'allez faire que perdre de l'argent, donc vous êtes obligé de fermer tout de suite.
C'est un livre aussi d'entretien, vous répondez à beaucoup de questions qu'on se pose. Il y en a une qui m'a plu justement dans ce chapitre sur les échecs et les succès. Vous répondez à la question « la vie d'entrepreneur ressemble étrangement un parcours du combattant, comment gardes-tu le moral ?» Votre réponse, c'est l'humour.
Ouais. parce que ça permet de dédramatiser, de prendre du recul. Voilà, c'est toujours, il y a toujours un côté drôle sur une situation, même qui pourrait paraître désespérée parfois. Et donc, quand on regarde les choses avec humour, on voit une autre réalité et puis aussi ça redonne un petit peu d'optimisme. Donc c'est vrai que c'est souvent une pirouette qu'on utilise.
Et on voit des moments, alors je ne sais pas si ça va vous plaire que je le dise ainsi, mais de souffrance, parce qu'il y a les mots de persévérance qui reviennent très souvent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, une question sur le bonheur. Vous dites à un moment, le burn-out guette toujours l'entrepreneur. C'est ça les risques les plus importants? L'usure?
Ce qu'il faut, c'est vraiment faire la différence entre les deux, c'est-à-dire que beaucoup travailler, c'est pas un problème. En revanche, il faut réussir à évacuer le stress qui peut aller avec, parce que quand vous cumulez les deux, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui ressemble à une sorte de d'entonnoir qui vous met dans un état psychologique compliqué. Donc, il faut toujours prendre du recul par rapport à une situation qui peut paraître stressante, identifier d'où vient potentiellement le stress. Si on peut régler le problème, eh bien on essaie de le régler. Si on ne peut pas régler le problème, la source du stress, à ce moment-là, il faut juste admettre qu'on ne peut pas régler la source du stress et essayer de faire en sorte d'éviter les conséquences.
Quand vous dites la persévérance, il y a aussi d'une certaine manière, alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous vouliez le dire, mais un certain apprentissage de l'école de la lenteur. Et notamment, ça vous le dit dès l'introduction, ne cherchez pas d'ascenseur, il n'y en a pas. Les entrepreneurs prennent toujours l'escalier. Pourtant, quand on voit la rapidité avec laquelle nous avons des licornes, c'est-à-dire en ce moment des entreprises qui valent plus $1 milliard, vous avez été, vous, l'une des toutes premières licornes en France. Il avait fallu des années pour que vous y arriviez. Là, rien que depuis le début de l'année, on en a eu 3. En une journée, on a battu les records de valorisation de ces entreprises jeunes. Vous vous dites quoi ? Eux, ils ont pris l'ascenseur, même le trampoline ?
Ah non, mais je me dis toujours la même chose, c'est-à-dire que une valorisation, ce n'est pas une construction de quelque chose d'extrêmement solide, ça reste une valorisation. En revanche, effectivement, avoir plus de moyens, ça permet de construire quand même plus vite, mais il n'empêche que toutes les étapes d'une société qui doit devenir grande et solide doivent être construites de manière extrêmement extrêmement attentive.
Mais est-ce que vous dites que vous avez ouvert la voie à ces entrepreneurs ? Parce que on a pu en interviewer beaucoup là récemment sur Europe 1 et tous disent les succès engendrés nous ont montré que c'était possible et surtout on a eu une vision mondiale dès le démarrage, qui n'était pas votre cas, mais très vite vous êtes parti à l'international et vous avez montré qu'on pouvait y arriver.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit beaucoup, je l'entends beaucoup parce que, évidemment, je communique beaucoup avec tous les entrepreneurs qui ont des histoires, comme vous dites, avec des licornes là, qui apparaissent partout maintenant, que je connais depuis plusieurs années généralement. Et puis là, quand ils percent, j'ai envie de dire, au grand jour, on les connaît un peu plus. Mais c'est vrai qu'ils me répondent souvent que, quand je leur dis bravo, c'est super, ça donne de l'éclairage sur tout l'écosystème tech français et donc de l'espoir à tout le monde, ils me répondent écoute, merci à toi, t'as montré la voie. Et c'est vrai que quelque part, on a, je pense, ouvert quelque chose, on a peut-être passé ce plafond de verre là, qui nous faisait croire que la France n'était pas forcément capable de construire des sociétés technologiques et orientées clients et qui deviennent complètement globales et mondiales. Bon, avec BlaBlaCar qui est aujourd'hui dans 22 pays, on a 100 millions de personnes dans le monde, donc 20 millions en France, mais quand même 80 millions de personnes inscrites sur BlaBlaCar qui ne sont pas des Français.
Donc vous avez réussi, vous aussi, cette internationalisation. Et effectivement, vous avez ouvert la voie. Et pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur BlaBlaCar, mais je tiens vraiment à dire que c'est plus un livre sur la création d'entreprise et sur votre expérience à vous, des écueils, des réussites, parce que on le voit, il y en a beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Mazzella. Je rappelle le titre de votre livre, Mission BlaBlaCar, les coulisses de la création d'un phénomène. C'est aux éditions Erol. Merci de nous l'avoir dévoilé en avant-première, puisque le livre sort demain. Nous, on se retrouve justement demain, 22h20.